Chapitre 24. Cette lettre de Mademoiselle Bingley, si vivement attendue, vint enfin détruire tous les doutes. La première phrase donnait l'assurance que toute la famille était fixée à Londres pour l'hiver, et finissait par les regrets du frère de n'avoir pu, avant son départ, prendre congé de ses amis de Herefordshire. Tout espoir était perdu, et lorsqu'Hélène fut en état de lire le reste de la lettre, elle n'y trouva que les expressions amicales de celle qui l'écrivait qui pussent lui donner quelque plaisir. Les louanges de Mademoiselle Darcy en faisaient le principal sujet. Ses charmes étaient célébrés avec emphase, et Caroline se vantait que leur intimité croissait chaque jour, et se hasardait même à prédire l'accomplissement des désirs qu'elle avait manifestés dans sa dernière lettre, disant que son frère demeurait chez M. Darcy. Elle parlait aussi avec enthousiasme d'un nouvel ameublement dont ce dernier venait de faire emplette. Élisabeth, à qui Hélène vint communiquer cette lettre, la lut avec indignation. Son cœur était partagé entre l'inquiétude et le ressentiment. Ce que disait Mademoiselle Bingley de l'inclination qu'avait son frère pour Miss Darcy ne lui fit aucune impression. Elle était aussi convaincue que jamais que c'était Hélène seule qui l'aimait. Mais quelque disposée qu'elle fût à bien penser à lui, elle ne pouvait, sans mépris, même sans impatience, réfléchir à cette humeur facile, à ce manque de résolution qui le rendait dans cette circonstance l'humble esclave de ses amis et lui faisait sacrifier son propre bonheur à leur caprice. Si seulement il ne s'était agi que de son propre bonheur, il aurait pu se conduire selon sa volonté, mais la félicité d'Hélène dépendait de la sienne, et elle ne doutait point qu'il en fût lui-même persuadé. C'était un sujet, en un mot, sur lequel de longtemps on ne se lasserait de rêver. Élisabeth ne pouvait penser qu'à cela, et ses réflexions ne faisaient qu'accroître son inquiétude. Car que les sentiments de Bingley fussent réellement changés, ou qu'il se laissât gouverner par ses sœurs, qu'il connût ou ne connût point l'impression qu'il avait faite sur le cœur d'Hélène, toute circonstance qui devait naturellement influer sur l'opinion qu'on pouvait se former de lui, le repos d'Hélène n'en était pas moins troublé. Quelques jours s'écoulèrent, et Hélène n'avait point encore confié ses sentiments à Élisabeth. Mais un matin, Madame Bennet, après maintes réflexions encore plus fâcheuses que de coutume sur le propriétaire de Netherfield, les ayant laissées toutes deux seules dans le salon, elle dit avec émotion: « Oh, si ma chère maman voulait ne plus me parler ainsi! Elle ne sait pas combien ses réflexions sur lui me font de la peine. Mais non, ne murmurons point, cette souffrance ne peut durer. Lui, une fois oublié, nous serons tous comme nous étions auparavant. » Élisabeth ne répondit point, mais ses regards reflétaient le doute et l'inquiétude. « Vous en doutez, s'écria Hélène en rougissant, vous n'en avez nulle raison. Il peut vivre dans mon souvenir comme l'homme le plus aimable que j'ai connu, mais c'est tout, je n'ai plus rien à craindre ni à espérer. Et grâce au ciel, je ne puis lui rien reprocher. La Providence m'a épargné ce chagrin-là. Ainsi, encore un peu de temps, et je retrouverai ma tranquillité. » Puis elle ajouta d'une voix plus assurée: « Dès à présent, j'ai du moins un grand sujet de consolation, c'est que tout cela n'a été qu'une illusion passagère, et que, heureusement, c'est moi seul qui en souffre. » « Bonne Hélène, répartit Élisabeth, votre douceur, votre désintéressement sont vraiment angéliques, on ne saurait trop vous admirer. Oui, je sens que je ne vous ai jamais rendu justice, ni ne vous ai aimé autant que vous le méritez. » Mademoiselle Bennet se récria vivement contre ces éloges, les attribuant à l'amitié que lui portait sa sœur. « Non, non, dit Élisabeth, cela n'est pas juste. Vous voulez croire que tout le monde est estimable, et si je parle mal de quelqu'un, vous en êtes affligée. Moi, je ne désire que vous croire parfaite, et vous vous y opposez. Ne craignez point, je ne saurais tomber dans les extrêmes, ni imiter cette bienveillance universelle qui n'appartient qu'à vous. Il y a fort peu de gens que j'aime sincèrement, et encore moins que je puisse estimer. Plus je vois le monde, moins il me plaît, et chaque jour me fait mieux juger l'inconstance du cœur humain, et combien il faut se fier à quelque apparence de mérite ou de bon sens. J'en ai encore eu tout dernièrement deux preuves bien évidentes. L'une, celle dont je ne veux point parler, l'autre est le mariage de Charlotte. C'est une chose si inconcevable, si bizarre. Ma chère Lydie, ne vous laissez point aller à de telles pensées. Elles détruiraient votre bonheur. Vous n'accordez pas assez aux différences de caractère et de position. Considérez un peu la bonne réputation dont jouit M. Collins et combien Charlotte est raisonnable. Elle appartient, vous le savez, à une famille nombreuse. Quant à la fortune, cet établissement est fort avantageux, et il faut croire, pour notre satisfaction à tous, qu'elle a quelque estime pour notre cousin. Je m'efforcerai pour vous complaire de croire tout ce qu'il vous plaira, mais cette croyance ne peut faire de bien qu'à vous seul, car si j'étais persuadé que Charlotte estimât M. Collins, j'aurais en vérité de son jugement une plus pauvre idée que je n'ai maintenant de son cœur. Ma chère Hélène, M. Collins est sot, ignorant, suffisant et ennuyeux, vous le savez aussi bien que moi. Et non plus que moi, vous ne pouvez penser que celle qui l'épouse soit une femme sensée. Ne cherchez point à l'excuser. Bien qu'il s'agisse de Charlotte Lucas, je ne saurais vous permettre de changer le sens des mots « principe » et « intégrité », ni vous laisser persuader qu'un froid égoïsme soit de la prudence et l'insensibilité pour le danger un bonheur assuré. « Vos épithètes sont trop fortes, répliqua Hélène, et j'espère que tôt ou tard vous en serez convaincus en les voyant heureux ensemble. Mais parlons maintenant de cette autre circonstance à laquelle vous avez fait allusion. Il me serait impossible de ne pas vous comprendre, mais je vous supplie, chère Lydie, de ne point me donner le chagrin de vous voir le blâmer. Oh, ne me dites pas qu'il a perdu votre estime. Nous ne pouvons guère nous attendre qu'un jeune homme vif et enjoué soit toujours circonspect dans sa conduite. Notre vanité nous induit souvent en erreur. Les femmes prennent trop facilement les soins de la galanterie pour ceux qu'inspire un sentiment plus réel. Et les hommes en usent avec elles de manière à le leur faire croire, dit Élisabeth. S'ils le font à dessein, on ne saurait les justifier, mais je suis loin de penser que cela arrive aussi souvent que bien des gens l'imaginent. « Je ne pense pas, reprit Élisabeth, que M. Bingley ait agi à dessein, mais sans avoir le projet de mal faire ou de se jouer du bonheur d'autrui, on peut causer bien des chagrins. Souvent il suffit pour cela d'une étourderie ou même d'un manque de résolution. Vous persistez donc à croire qu'il se laisse conduire par ses sœurs ? Oui, ainsi que par son ami. Je ne le puis penser. Pourquoi voudrait-elle le contrarier ? Elles ne peuvent désirer que son bonheur, et s'il m'aime, il ne peut être heureux qu'avec moi. Votre première supposition est fausse. Il est fort possible que son bonheur ne soit point ce qui les occupe le plus. Elles peuvent lui désirer un rang élevé, une augmentation de fortune, et vouloir lui faire épouser une fille riche qui ait des parents titrés et dont la fierté soit égale à la leur. Oh, certainement, elle voudrait le marier à Mademoiselle Darcy. Mais ce désir peut être fondé sur des motifs plus raisonnables. Elles étaient liées avec cette demoiselle longtemps avant de me connaître. Est-il donc si surprenant qu'elles la préfèrent à moi ? Après tout, quel que soit leur dessein, je ne puis croire qu'elles voulussent s'opposer à ceux de leurs frères. Quelle sœur se croirait en droit de faire une pareille chose, sans avoir pour cela un motif bien puissant ? Si elles avaient cru qu'il m'aimât, elles n'auraient point essayé de nous séparer. Et s'il m'eût réellement aimé, elle ne pourrait y réussir. En supposant un tel attachement, vous les faites agir d'une manière dénaturée et vous me rendez vraiment malheureuse. Ne m'affligez pas, chère Lydie, par cette idée. Je ne rougis point de m'être abusée, ou du moins, cette peine est légère, comparée à celle que j'éprouverais à penser mal de lui ou de ses sœurs. Laissez-moi prendre les choses du meilleur côté possible, en un mot, de la manière la plus naturelle. Élisabeth ne put contrarier un tel désir, et depuis ce jour, le nom de M. Bingley fut rarement prononcé entre elles. Madame Bennet continuait cependant à s'étonner et à murmurer de cette absence, et encore qu'il se passât à peine un jour qu'Élisabeth ne lui en expliquât la cause fort clairement, elle ne pouvait la considérer avec moins de perplexité. Sa fille cherchait à la convaincre de ce dont elle-même était loin d'être persuadée, que Bingley n'avait eu pour Hélène qu'une légère fantaisie, que l'absence lui avait bientôt fait oublier. Mais bien que la possibilité de cette supposition fût admise pour le moment, elle se trouvait chaque jour obligée de répéter la même fable. Le principal motif de consolation qu'eut Madame Bennet, c'était l'espoir que Bingley reviendrait au moins à Netherfield dans le courant de l'été. Cette affaire fut traitée par M. Bennet d'une manière bien différente. « Ainsi, Lizzie, dit-il un jour, votre sœur, à ce que je vois, n'est pas heureuse dans ses amours. Eh bien, je l'en félicite, car une demoiselle, avant de se marier, aime bien avoir parfois ses espérances trompées. Cela occupe son imagination et lui donne un relief parmi ses compagnes. Quand sera-ce votre tour? Vous ne sauriez longtemps laisser à Hélène un pareil avantage? Voici pour vous le moment favorable. Il y a assez d'officiers à Meryton pour désappointer toutes les filles du pays. Tenez, que Wickham soit votre homme. Il est fort joli garçon et vous dupera merveilleusement. « Je vous rends grâce, mon père, mais un homme moins aimable que lui fera mon affaire. Tout le monde ne peut s'attendre à être si favorisé qu'Hélène. »« Cela est vrai, dit M. Bennet. Mais il est consolant pour vous de savoir que, si rien de semblable vous arrivait, vous avez une tendre mère qui ne vous le laissera pas facilement oublier. » La société de M. Wickham venait fort à propos dissiper la tristesse que les derniers événements causait à quelques-uns des habitants de Longbourn. Il les voyait fort souvent, et à ses autres qualités s'unissait maintenant une parfaite franchise. Tout ce qu'Élisabeth avait déjà appris, ses droits à la bienveillance de M. Darcy, et les mauvais procédés que celui-ci avait eus pour lui, furent librement avoués et ouvertement discutés. Et chacun se vantait d'avoir détesté M. Darcy avant même de connaître tous ces détails. La seule Miss Bennet pensait qu'il y avait peut-être dans cette affaire quelques circonstances inconnues à la société de Hertfordshire, mais qui pourraient excuser M. Darcy. Sa bonté, sa candeur naturelle, la portaient à être indulgente et à faire remarquer combien souvent les apparences étaient trompeuses. Mais par tous les autres, M. Darcy fut jugé le plus méchant des hommes.